Chapitre 10 Autre réunion. Lorsque les deux jeunes gens rentrèrent dans la chambre qu'ils avaient quittée, ils trouvèrent les hôtes attendus. Un repas frugal était servi sur la table pour expliquer et motiver sans doute la réunion si quelque étranger venait à entrer. L'assemblée était aussi nombreuse que variée. Il y avait des prêtres et des laïcs, des hommes et des femmes. Cette réunion avait pour objet de concerter des mesures au sujet d'un événement qui venait d'arriver dans le palais et sur lequel nous donnerons quelques brèves explications. Sébastien, possédant la confiance de l'empereur, employait toute son influence à propager la foi chrétienne dans la demeure du souverain. De nombreuses conversions avaient eu lieu, mais peu de temps avant l'époque dont nous parlons, elles devinrent générales, et elles sont relatées en détail dans les actes du martyr du valeureux guerrier. En vertu des lois anciennes, beaucoup de chrétiens furent mis à mort. Deux frères, Marcus et Marcellinus, ayant été condamnés, attendaient l'exécution de leur sentence quand leurs amis, autorisés à leur dire adieu, les supplièrent en versant des larmes de sauver leur vie par l'apostasie. Ils parurent ébranlés et promirent de réfléchir. Sébastien entendit parler de cette hésitation et vola vers eux pour les sauver. Il était trop connu des gardiens pour qu'ils lui refusassent l'entrée de la prison. Il apparut donc dans le cachot obscur comme un ange de lumière. Cette prison était une pièce aux murs épais qui faisait partie de la maison du magistrat qui les avait sous sa garde, le lieu de l'emprisonnement étant généralement laissé à son choix. Tranquillinus, le père des deux condamnés, avait obtenu un délai de 30 jours et il essayait par tous les moyens d'ébranler leur fermeté. Pour seconder ses efforts, Nicostratus, le magistrat, les avait renfermés dans sa propre maison. Sébastien allait donc remplir une mission pleine de périls. Outre les deux chrétiens captifs, 16 prisonniers païens étaient renfermés dans la même geôle. Les parents des deux jeunes gens ne les quittaient pas, ils pleuraient sur ces deux vies encore en fleurs qui allaient s'éteindre, ils tâchaient de les ébranler par leurs larmes et leurs caresses. Là aussi était le geôlier Claudius, le magistrat Nicostratus et sa femme Zoé, que la compassion et le désir de voir les deux jeunes gens échapper à un sort funeste avaient amenés en ce triste lieu. Sébastien pouvait-il espérer que sur cette quantité de personnes, il ne s'en trouverait pas une qui, soit par le sentiment du devoir de sa charge, soit dans l'espoir d'être graciée, ou simplement en haine du christianisme, ne le dénoncerait pas s'il s'avouait chrétien? Pouvait-il ignorer qu'une telle déclaration équivaudrait pour lui à un arrêt de mort? Le noble Sébastien savait tout cela et peu lui importait. Tant mieux si 3 victimes au lieu de 2 étaient offertes à Dieu. Tout ce qu'il craignait, c'était que l'apostasie ne fermât le ciel à 2 chrétiens. La chambre était une salle de banquet, rarement ouverte pendant la journée, et qui, par conséquent, demandait peu de lumière. Le jour, comme au Panthéon, venait d'une ouverture pratiquée dans la voûte. Sébastien, désirant être vu de tous, se plaça sous la raie lumineuse qui venait d'en haut, claire et brillante, tandis que le reste de l'appartement paraissait obscur. Le rayon se reflétait sur le métal poli de l'armure enrichie d'or du tribun, elle étincelait à chacun de ses mouvements et lançait des éclairs dans toutes les parties sombres de la prison, tandis que la lumière illuminait les nobles traits du guerrier et se jouait sur sa mâle figure adoucie par l'émotion et une tristesse affectueuse quand il regardait les deux jeunes confesseurs ébranlés. Il se passa quelques instants avant que cette émotion lui permît de parler, mais tout à coup, sa douleur éclata dans ses paroles ardentes, passionnées. « Saints et vénérables frères, s'écria-t-il, vous avez témoigné pour le Christ, vous êtes en prison pour lui, vos membres portent les traces des chaînes endurées pour son nom, vous avez souffert des tourments pour lui, je devrais tomber à vos pieds, vous rendre hommage et vous demander vos prières, au lieu de venir à vous pour vous exhorter, encore moins pour vous réprimander. Je ne puis croire à la vérité de ce que j'ai entendu. On m'a dit que, tandis que les anges tressaient les dernières fleurs de votre couronne, vous les avez priés de s'arrêter, et même vous leur avez demandé d'arracher les fleurs déjà posées et de les jeter au vent. Puis je pensais que vous, qui avez déjà un pied sur le marchepied du ciel, vous songiez à en redescendre pour venir pleurer et souffrir dans cette vallée de deuil et de larmes. Les deux jeunes gens courbèrent la tête et pleurèrent en reconnaissant leur faiblesse. Sébastien continua. « Vous ne pouvez soutenir le regard d'un pauvre soldat comme moi, du dernier des serviteurs du Christ. Comment donc soutiendrez-vous le regard irrité du Seigneur que vous êtes au moment de renier par vos paroles devant les hommes, quoique vous ne puissiez le renier au fond de votre cœur? Lorsque le jour terrible du jugement, il vous reniera devant ses anges, quand, au lieu de vous présenter vaillamment devant lui, bons et fidèles serviteurs du Maître, ayant combattu pour lui, comme vous l'auriez fait demain, vous arriverez à son jugement redoutable après avoir traîné pendant quelques années de plus ici-bas votre misérable vie, rejeté de l'Église, méprisé de ses ennemis mêmes, et, ce qui est pis encore, le cœur rongé par le ver qui ne meurt pas et par le remords qui tue le sommeil. Arrêtez, oh, par pitié, cessez votre discours, qui que vous soyez, jeune homme, s'écria Tranquillinus, le père des deux condamnés. Ne parlez pas si sévèrement à mes fils, ce sont les larmes de leurs mères et mes prières qui les ont ébranlés. La crainte des tortures qu'ils ont endurées, avec quelle force d'âme, vous le savez, ne les aurait pas fait reculer. Mais est-elle sainte, la religion qui commande aux enfants de laisser leurs vieux parents seuls à l'abandon et à la douleur? Un peu de patience, bon vieillard, dit Sébastien avec une voix aussi douce que son regard. Laissez-moi parler d'abord à vos fils. Ils savent ce que je veux leur dire, et vous ne me comprenez pas encore, mais avec la grâce de Dieu, mon langage deviendra clair pour vous comme pour eux. Votre père a eu raison de dire que c'est en voyant les larmes de votre mère que vous vous êtes demandé si vous ne préféreriez pas vos parents à celui qui vous dit « Si vous aimez votre père et votre mère plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Vous ne pouvez conquérir pour vos parents l'éternelle vie si vous y renoncez vous-même. Croyez-vous qu'ils deviendront chrétiens en vous voyant renoncer le christianisme? En ferez-vous des soldats de la croix dont vous désertez l'étendard? Leur enseignerez-vous que la sainte doctrine est plus précieuse que la vie en préférant la vie à la vérité? Vous devez désirer pour vos parents non la vie qui finit, mais la vie éternelle. Hâtez-vous donc de l'acquérir vous-même et prosternez aux pieds du Sauveur qui vous couronnera de fleurs impérissables, demandez-lui de racheter l'âme de ceux qui vous sont si chers. » Assez, assez, Sébastien, nous sommes résolus, s'écrièrent ensemble les deux frères. Claudius, dit l'un, remettez-moi les chaînes que vous m'avez ôtées. Nicostratus, reprit l'autre, donnez ordre que la sentence soit exécutée. Claudius et Nicostratus ne bougèrent point. Adieu, cher père, adieu, tendre mère, disaient-ils en embrassant leurs parents. Non, répliqua le père, nous ne serons plus séparés. Nicostratus, allez dire à Chromatius que je suis chrétien avec mes fils. Je mourrai avec joie pour une religion qui s'est transformée en héros de faibles enfants. Et moi, continua la mère, là où sont mes enfants et mon mari, je veux être aussi. La scène qui suivit ne peut être décrite. Tous étaient émus et pleuraient. Les prisonniers attendris étaient gagnés à la fois. Sébastien se vit bientôt entouré d'un groupe d'hommes et de femmes touchés par la grâce, adouci par sa céleste influence et soumis par son pouvoir. Cependant, tout était perdu si un seul restait en arrière. Sébastien comprit le danger qui en résulterait, non pas pour lui, l'intrépide guerrier ne connaissait pas la crainte, mais pour l'Église et pour ses âmes placées sur le seuil de la vie, si la scène qui venait de se passer s'ébruitait trop. Les uns prenaient ses mains, les autres s'agenouillaient devant lui et baisaient ses pieds, comme s'il eût été un de ces esprits de paix qui venaient visiter Pierre dans son cachot de Jérusalem. Deux assistants seuls n'avaient pas parlé. Nicostratus était ému, mais sans être conquis. Il éprouvait une vive agitation morale, et cependant ses croyances restaient debout. Sa femme Zoé, agenouillée devant Sébastien, élevait sans prononcer un mot ses regards et ses bras suppliants vers son mari. « Venez, Sébastien, dit le gardien des archives. Tel était l'office de Nicostratus. Il est temps pour vous de sortir d'ici. Je ne puis qu'admirer la sincérité de la foi et la générosité de cœur qui vous anime et qui appelle ces deux jeunes gens à la mort. Mais mon devoir est impérieux et doit l'emporter sur mes sentiments intimes. » ne croyez-vous pas comme les autres ?»« Non, Sébastien, je ne suis pas si aisément vaincu. Il me faut des évidences plus convaincantes que votre vertu elle-même. » « Oh, parlez-lui, dit Sébastien à Zoé. Épouse fidèle, parlez au cœur de votre époux, car vos regards me disent que vous au moins vous êtes touchée. » Zoé cacha sa figure avec ses mains, et ses larmes seules répondirent. « Vous lui avez rappelé son malheur, Sébastien, dit Nicostratus avec tristesse. Ne savez-vous pas qu'elle est muette ?»« Je l'ignorais, noble Nicostratus, car lorsque je la vis en Asie, elle parlait. » « Depuis 6 ans, reprit le mari avec une voix pleine d'émotion, sa langue, jadis si persuasive, a été paralysée et ne peut plus articuler un seul mot. » Sébastien resta un moment silencieux. Puis, étendant les bras, comme les chrétiens le faisaient quand ils voulaient prier, il leva les yeux au ciel et laissa échapper ses paroles. « Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vous qui avez commencé cette œuvre de salut. Qu'elle soit accomplie tout entière par vous seul. Envoyez votre pouvoir, car il est nécessaire. Confiez-le pour une fois au plus faible et au plus misérable des instruments. Laissez-moi vaincre avec l'arme de votre croix, que les esprits de ténèbres s'envolent devant elle et que votre rédemption nous réunisse tous. Zoé, regardez-moi encore. » Tous restaient silencieux. Sébastien, après un moment de prière, fit le signe de la croix sur la bouche de Zoé en lui disant « Zoé, parlez, que croyez-vous » « Je crois au Seigneur Jésus-Christ » répliqua-t-elle d'une voix claire et assurée en tombant aux pieds de Sébastien. Nicostratus jeta un cri étouffé et, se laissant tomber à genoux, il arrosait de ses larmes les mains du guerrier. La victoire fut complète. Tous étaient gagnés et les précautions nécessaires furent prises pour cacher aux yeux des profanes cette miraculeuse conversion. Comme Nicostratus avait le pouvoir de mettre les prisonniers là où bon lui semblait, il les transféra tous dans sa maison en les y laissant libres. Sébastien confia les néophytes aux soins du saint vieillard Polycarpe, du titre du saint pasteur. Les temps étaient si menaçants, le cas si particulier, et il était si nécessaire de ne pas donner de nouveaux motifs à l'irritation des païens qu'on poussait nuit et jour leur instruction afin qu'ils pussent être promptement baptisés. Les nouveaux chrétiens furent affermis par un nouveau miracle. Tranquillinus, qui depuis longtemps souffrait de la goutte, fut rendu à la santé en recevant le baptême. Chromatius était le préfet de la cité envers lequel Nicostratus répondait de ses prisonniers. On ne pouvait lui cacher longtemps l'événement qui était arrivé. Pour tous les néophytes, cette découverte équivalait à un arrêt de mort, mais, fortifiés par la foi, ils se préparaient à la recevoir avec fermeté. Chromatius était un homme d'un caractère droit, ennemi des persécutions. Il écouta avec intérêt le récit qu'on vint lui faire. Quand on lui raconta la guérison de Tranquillinus, il fut vivement ému. Lui-même souffrait de la goutte et endurait d'insupportables douleurs. « Si ce que vous me dites est vrai, dit-il, et que je puisse juger par moi-même ce remède souverain, je me rendrai à l'évidence. » On envoya chercher Sébastien, mais administrer le baptême comme un spécifique médical, sans que la foi l'ait fait désirer, eût été un acte de superstition. Sébastien employa un autre moyen dont nous parlerons plus tard et Chromatius fut complètement guéri. Bientôt après, il reçut le baptême avec son fils Tibertius. Il devenait impossible pour Chromatius de conserver son emploi, il envoya sa démission à l'empereur. Tertullus, père de Corvinus et préfet du prétoire, fut nommé à sa place. Le lecteur verra que les événements racontés dans les actes de saint Sébastien arrivèrent un peu avant le commencement de notre récit, puisque dans un chapitre précédent, nous montrons le père de Corvinus déjà préfet de la cité. Revenons donc à la soirée pendant laquelle Sébastien et Pancratius retrouvèrent dans la chambre de l'officier une grande partie des personnes dont nous venons de parler. Beaucoup d'entre elles demeuraient au palais même ou dans le voisinage, et parmi elles on remarquait Castulus qui occupait une haute position à la cour avec sa femme Irène. Les réunions se tenaient afin de décider les précautions à prendre pour garantir les nouveaux convertis des remarques de la malveillance qui ne manquerait pas de signaler le changement de vie et la retraite de si hauts fonctionnaires. Sébastien obtint de l'empereur la permission pour Chromatius de se retirer dans une villa de Campanie. On décida que la plupart des néophytes iraient le rejoindre et formeraient une communauté où ils recevraient l'instruction religieuse nécessaire et pourraient suivre les offices de piété. On arrivait à la saison où chacun partait pour la campagne, l'empereur se rendait sur les côtes de Naples et devait faire un voyage dans le sud de l'Italie. C'était donc un moment favorable pour mettre le plan à exécution. Le pape lui-même, qui, le dimanche qui suivit la conversion, vint célébrer les divins mystères dans la maison de Nicostratus, conseilla aux néophytes de quitter Rome. Dans cette réunion, toutes les mesures d'exécution furent arrêtées. On devait partir de différents points et en groupes séparés. Les uns suivraient la voie appienne, les autres la voie latine, tandis qu'une partie se dirigerait par un chemin des montagnes en côtoyant Tibur et en passant par Arpinum. Mais tous devaient se réunir à la villa près de Capoue. Pendant qu'on discutait de ces longs et fastidieux détails, Torquatus, un des prisonniers convertis par la visite de Sébastien, laissa voir de l'impatience et de l'irritabilité. Il trouvait des inconvénients à chaque plan, se montrait mécontent de la route qu'on lui assignait, parlait avec quelque mépris de cette fuite du danger, comme il l'appelait, et se vantait pour sa part d'être prêt à paraître le lendemain au forum, à braver les juges en renversant les autels et en se proclamant chrétien. Chacun s'efforça de le modérer et de l'adoucir. On sentait qu'il était important de le voir suivre la petite colonie à la campagne, mais il insista et persista dans son désir de demeurer à Rome. Un seul point restait à éclaircir. Qui serait à la tête de la colonie pour diriger ses opérations? Un combat de générosité s'éleva entre le saint prêtre Polycarpe et Sébastien. Chacun d'eux voulait rester à Rome afin d'avoir le premier la chance du martyr. Le généreux débat fut clos par une lettre du pape à son bien-aimé fils Polycarpe du titre du saint pasteur. Il lui ordonnait d'accompagner les nouveaux convertis et de laisser Sébastien à Rome pour animer les confesseurs et protéger les chrétiens. Ils obéirent et la réunion fut terminée par une prière d'action de grâce. Sébastien, après avoir pris congé de ses amis, insista pour reconduire Pancratius jusque chez lui. Au moment de quitter la chambre, ce dernier lui dit « Sébastien, je n'aime pas ce Torquatus. Je crains que cet homme ne nous cause quelque ennui. » À vrai dire, reprit le soldat, je préférerais qu'il fût autrement, mais il faut nous rappeler qu'il est seulement néophyte et espérer qu'avec le temps, la grâce le changera. Comme ils traversaient la cour d'entrée du palais, ils entendirent un bruit confus de sons étranges, de cris et de notes sauvages qui ressemblaient à des hurlements. Ils partaient du quartier des Archémaures. Un grand feu était évidemment allumé au milieu du groupe, car la fumée et les étincelles s'élevaient au-dessus des portiques alentour. Sébastien aborda la sentinelle de la cour qu'il traversait et demanda « Ami, que se passe-t-il donc chez nos voisins ?»« Leur prêtresse, l'esclave noire, répliqua-t-il, qui doit épouser leur capitaine si elle parvient à racheter sa liberté, vient accomplir les rites nocturnes, et, à chacune de ses visites, cet affreux vacarme se renouvelle. « Vraiment, dit Pancratius, quelle est donc la religion de ces Africains ?»« Je ne le sais pas, reprit le légionnaire, à moins qu'ils n'appartiennent à la secte qu'on nomme chrétienne. »« Qui vous fait penser à cela ?»« J'ai entendu dire que les chrétiens se réunissent la nuit pour hurler des chants détestables et commettre toutes sortes de crimes. » Ils font cuire et mangent la chair d'un enfant mis à mort pour cette cérémonie, et c'est justement ce que ces Africains semblent faire. « Bonne nuit, camarade !» dit Sébastien, et il continua, une fois sorti du vestibule. « N'est-il pas étrange, Pancratius, que malgré tous nos efforts, nous qui adorons le seul Dieu vivant en esprit et en vérité, qui veillons sur nous afin d'éviter l'ombre du mal, qui préférerions subir la mort plutôt que de prononcer un mot déshonnête, nous soyons, après 3 siècles, confondus par le peuple avec les sectateurs des superstitions les plus dégradantes, et qu'ils mettent notre culte sur le même rang que l'idolâtrie que nous détestons. Jusque à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ? Aussi longtemps, reprit Pancratius, en s'arrêtant en dehors du vestibule pour regarder la lune qui pâlissait au ciel. Aussi longtemps que nous marcherons à cette faible lumière et que nous n'aurons pas vu le soleil de justice se lever sur notre pays dans sa beauté et la splendeur de ses rayonnements. Sébastien, de quel endroit préférez-vous voir le lever du soleil ? Le plus magnifique lever de soleil que j'ai jamais vu, reprit le soldat, en se prêtant à la fantaisie du jeune questionneur. C'est du haut de la montagne Latiale, près du temple de Jupiter. Le soleil surgissait de derrière la montagne, dont il projetait l'ombre colossale comme une pyramide sur la plaine et au loin sur les flots de la mer. À mesure qu'il montait, l'ombre raccourcissait et se retirait. À chaque moment, un objet nouveau s'éclairait, d'abord les galères et des chaloupes qui glissaient sur les eaux, ensuite le rivage battu par les vagues toujours en mouvement, puis, l'un après l'autre, les édifices aux pierres blanches rentrèrent dans la région lumineuse qui s'agrandissait toujours, jusqu'à ce qu'enfin Rome, dans sa majestueuse beauté, avec ses cimes élevées, apparut baignée de lumière. Quelle vue magnifique j'avais sous les yeux! Le spectateur placé au pied de la montagne n'aurait jamais pu s'en faire une idée. Voilà justement la réflexion que j'attendais, Sébastien, reprit Pancratius. Il en sera ainsi quand un soleil plus brillant se lèvera sur cette contrée encore enténébrée. Quel beau spectacle quand, les ombres se retirant de proche en proche, on verra à chaque moment les beautés encore cachées de notre sainte foi et de notre foi et de notre culte mises en lumière jusqu'à ce qu'enfin la cité reine apparaisse comme un type sacré de la cité de Dieu. Ceux qui verront s'étant bénis apprécieront-ils la beauté de ce spectacle ? Ou bien, confinés à leur étroit horizon, se couvriront-ils les yeux de leurs mains pour les préserver de cette éblouissante lumière ? J'espère, Sébastien, qu'à ce moment, vous et moi regarderons d'en haut ce grand spectacle. Il ne peut être dignement apprécié que lorsqu'on le contemple d'une montagne plus élevée que le temple de Jupiter d'Albe ou d'Olympie, du sommet de cette montagne où réside l'agneau et du pied de laquelle coulent les sources de la vie. Ils continuèrent leur promenade en silence au milieu des rues brillamment éclairées. Quand ils eurent atteint la maison de Lucine, ils échangèrent un affectueux bonsoir et Pancratius, après un moment d'hésitation, ajouta « Sébastien, vous avez dit ce soir une chose sur laquelle je voudrais bien avoir une explication. » « Qu'est-ce donc ? Quand vous discutiez avec Polycarpe, avant de décider si vous resteriez à Rome ou si vous iriez en Campanie, vous avez promis, si vous restiez ici, d'être prudent et de ne pas vous exposer à des dangers inutiles. Vous avez ajouté que vous aviez un objet en vue qui vous retiendrait, mais qu'une fois cette tâche accomplie, il vous serait difficile de contenir plus longtemps l'ardeur qui vous entraîne à donner votre vie pour le Christ. Et pourquoi, Pancratius, désirez-vous tant connaître une pensée qui a peut-être quelque chose de peu raisonnable ? Parce que je suis curieux d'apprendre quel peut être le motif assez puissant pour enchaîner les aspirations de votre âme vers l'idéal des chrétiens. Je regrette, mon cher enfant, qu'il ne me soit pas possible de vous le révéler à présent, mais vous le saurez plus tard. Me le promettez-vous ? Oui, très solennellement, que la bénédiction de Dieu soit avec vous.